Bonjour, c'est David Faraoni, traduisant le podcast d'Evan Karash, éditeur en chef d'Anesthesiology, qui présente quelques articles qui seront publiés dans l'édition de juillet 2020. Nous commençons ce mois par une étude de l'effet analgésique de la kétamine et le magnésium intraveineux évalué plusieurs semaines après administration. Dr Gisèle Pickering et collègues de l'Université de Clermont-Ferrand en France ont réalisé cette étude. Ils testent l'hypothèse que la kétamine pourrait soulager la douleur neuropathique et avoir des effets cognitifs et émotionnels bénéfiques en comparaison à un placebo. Ils postulèrent également que le magnésium pourrait avoir un effet additif quand administré avec la kétamine. Les auteurs conduisent une étude prospective randomisée contrôlée en double aveugle qui inclut 20 patients avec douleur neuropathique. Les patients recevaient une infusion de tous les 35 jours dans un ordre aléatoire. Les infusions consistaient en kétamine 0,5 mg par kilo en plus d'un placebo, kétamine 0,5 mg par kilo et magnésium 3 g ou deux infusions de placebo. Les auteurs observèrent que la douleur à 35 jours ne différait pas entre les trois groupes. Aucune différence n'était rapportée en termes d'émotion, de sommeil et mesures de qualité de vie. Pendant l'infusion de placebo, 10% des patients rapportaient un effet secondaire. Le pourcentage de patients avec un effet secondaire augmentait à 20% pour les patients qui recevaient la kétamine et 35% pour la combinaison de kétamine et de magnésium. Les auteurs concluent que l'intensité de la douleur était comparable entre les trois schémas, sans changement immédiat ou à long terme sur les composantes psychologiques. Notre article suivant examine si l'utilisation de l'index de variabilité de la plétismographie pourrait réduire les complications post-opératoires et la durée de séjour. Dr Marc-Olivier Fischer de Caen en Normandie et collègues en France ont conduit cette étude. Les auteurs ont randomisé 447 adultes programmés pour une chirurgie élective du genou ou de la hanche. Les patients, avec une prise en charge individualisée de l'hémodynamique, avec une sonde de plétismographie frontale, et le but était de maintenir un index de variabilité en dessous de 13%. La prise en charge standard visait à maintenir une pression artérielle moyenne au-dessus de 65 mm de mercure. L'objectif primaire était la durée de séjour et ne différait pas entre les deux groupes. Les groupes présentaient une incidence de complications cardiaques de 1% et une incidence de défaillance rénale de 4%. Un taux de troponine supérieur à 0,06 microgramme par litre dans les 5 jours post-opératoires était observé chez 3% des patients inclus dans le groupe plétismographique et 2% dans le groupe contrôle. Les complications étaient rares et similaires dans chaque groupe. Les auteurs concluent que l'utilisation de l'index de variabilité de plétismographie pour guider le remplissage volémique ne réduit pas la morbidité post-opératoire et la durée de séjour chez les patients bénéficiant d'une chirurgie à risque modéré. Notre étude clinique suivante évalue l'incidence et la nature d'événements intraopératoires en cours d'anesthésie générale. Dr Justin Lieberman de Nashville, Tennessee et collègues de Vanderbilt University ont conduit cette étude. Les auteurs ont collecté des enregistrements vidéo et audio ainsi que des informations cliniques importantes chez 556 cas à 3 hôpitaux académiques entre 1998 et 2004. En plus de l'observation directe, les anesthésistes étaient questionnés au sujet des événements inhabituels à la fin du cas. Un événement inhabituel est un événement défini par les membres de l'équipe soignante comme une déviation de la pratique standard. Pour les 511 cas avec un enregistrement vidéo, 22% des cas présentaient au moins un événement inhabituel. Un tiers des cas présentaient plus qu'un événement. Des 173 cas, 13% étaient associés avec une blessure chez le patient et presque 70% avaient un impact pour le patient. Les cas à une durée prolongée et patients avec des comorbidités étaient associés avec la survenue d'événements inhabituels. À peu près un tiers des événements étaient associés au système cardiovasculaire, voies aériennes, équipements, médicaments ou des facteurs humains. Les auteurs concluent que la surveillance des événements inhabituels pourrait engendrer des initiatives prospectives pour améliorer la prise en charge des patients. Notre étude clinique suivante évalue l'effet de l'injection sous-cutanée de nitroglycérine pour la cannulation de l'artère radiale chez l'enfant. Une équipe de Séoul en Corée et collègues de Baylor College de médecine à Houston ont conduit cette étude. Les auteurs testent l'hypothèse que l'injection sous-cutanée de nitroglycérine augmente le taux de succès de cannulation de l'artère radiale. 113 patients étaient inclus dans cette étude randomisée en double aveugle. Tous les patients étaient âgés de moins de 2 ans. Après induction de l'anesthésie générale, les auteurs injectaient une solution de 5 microgrammes par kilo de nitroglycérine dans 0,5 ml ou le même volume de sérum salé. L'injection sous-cutanée était réalisée en 10 secondes et sans visualisation échographique. Les auteurs ont ensuite cannulé l'artère radiale 3 minutes plus tard avec une guidance échographique. Le diamètre de l'artère radiale était mesuré avant et après injection ainsi que après la cannulation. L'endpoint primaire est le taux de succès à la première tentative. Le taux de succès avec nitroglycérine était de 91%, ce qui était à peu près un tiers supérieur qu'en absence de nitroglycérine. Les auteurs montrent que l'injection sous-cutanée de nitroglycérine augmentait le diamètre de l'artère radiale. Le taux de complication dans le groupe nitroglycérine était de 3%, ce qui était inférieur au taux de 31% dans le groupe contrôle. Les auteurs concluent que l'injection de sous-cutanée de nitroglycérine avant la cannulation de l'artère radiale améliorait le taux de succès et réduisait le taux de complication. Ensuite, nous avons une méta-analyse de l'instrument de fragilité utilisé pour évaluer la fragilité des patients en préopératoire. Dr. Sylvie Aucoin et collègues ont conduit cette analyse. Le but était d'évaluer les instruments en termes de précision et de faisabilité clinique. L'endpoint primaire était la mortalité et les endpoints secondaires correspondaient à des mesures centrées sur le patient. Ils ont inclus 45 études dans leur analyse et les études ont utilisé 35 instruments différents, 5 étant inclus dans la méta-analyse. L'échelle de fragilité clinique qui caractérise le niveau de fragilité globale était associée avec la mortalité et la décharge dans un établissement qui n'est pas la maison. L'échelle de fragilité d'Edmonton prédisait au mieux les complications. Le Physical Frailty Phenotype prédisait le délirium. L'échelle de fragilité clinique était la meilleure en termes de faisabilité. Les auteurs concluent que les cliniciens devraient prendre en compte la précision et la faisabilité quand ils choisissent un instrument. L'évidence semble supporter l'utilisation de l'échelle de fragilité clinique. Notre étude suivante utilise un modèle animal de rat pour étudier la cryoneurolyse comme option à long terme pour le traitement de la douleur. Dr. Lilith Garibian et collègues de Massachusetts General Hospital ont conduit cette étude. Ils testent l'hypothèse qu'un mélange d'eau et de glace pourrait être une solution injectable sans médication et une méthode sélective de neurolyse par le froid qui pourrait conduire à l'analgésie. Ils ont développé une solution biocompatible d'eau et de glace qui pourrait être utilisée pour la cryoneurolyse. Ils ont utilisé le nerf sciatique des rats pour évaluer l'effet de l'injection sur la structure et la fonction du nerf. 62 rats étaient randomisés entre un groupe expérimental et un groupe contrôle. Les rats contrôle recevaient une solution à température ambiante. Après traitement, les auteurs évaluaient la gaine de myéline et l'intégrité de la structure neuronale ainsi que la fonction du nerf sciatique. Les auteurs ont démontré qu'une injection unique était sans danger et sélective pour altérer la gaine de myéline et la densité axonale. Les nerfs pourraient recouvrer leur structure dans les 102 jours. Les auteurs concluent que la cryoneurolyse avec un mélange d'eau et de glace permettrait de réduire la nociception pour 60 jours et une récupération complète au jour 112. Ensuite, nous avons notre Clinical Focus Review sur l'efficacité et les potentiels associés au Patient Blood Management. Une équipe menée par le Dr. Donat Spahn de l'Université de Zurich et collègues sur la scène internationale ont écrit cette revue. Ils définissent Patient Blood Management comme l'application de mesures basées sur l'évidence et des concepts chirurgicaux désignés à maintenir un taux d'hémoglobine optimal, réduire le saignement et optimiser l'hémostase. Ils notent que le concept avait été introduit pour la première fois dans la littérature médicale dans un éditorial publié dans Anesthésiologie en 2008. 12 ans plus tard, ils montrent que le Patient Blood Management a diminué de manière significative l'utilisation des globules rouges ainsi que le coût et les effets secondaires associés à la transfusion. En plus de la chirurgie élective, ils notent que le Patient Blood Management peut être utilisé dans la chirurgie urgente. Même si le Patient Blood Management devrait être considéré comme le nouveau standard, certains centres ne l'ont pas encore adopté. Spahn et collègues encouragent donc l'implémentation de Patient Blood Management pour traiter l'anémie préopératoire, la défaillance en fer et la prise en charge de la coagulation. Pour terminer, nous avons une autre revue qui couvre l'effet des anticoagulants oraux directs sur la coagulation ainsi que leur antagonisation. Les docteurs Ariel Langer et Jean Connors de Brigham and Women et Harvard ont écrit cette revue. La revue décrit la pharmacocinétique des anticoagulants oraux directs, les méthodes de laboratoire pour évaluer les effets anticoagulants, ainsi que les stratégies d'antagonisation dans différentes situations cliniques. Les auteurs notent que pour les patients nécessitant une chirurgie urgente, la priorité devrait être donnée à la prise en charge du saignement et la décision du besoin de la chirurgie. Ils offrent un outil de décision clinique pour l'antagonisation des anticoagulants oraux directs. Cet outil permet de définir si le patient peut bénéficier de la chirurgie en fonction du risque du saignement ou si l'antagonisation est nécessaire. Dans les situations où les antidotes ne sont pas disponibles, les alternatives peuvent être considérées malgré l'absence de données robustes. De nouveaux tests diagnostiques et antidotes sont en cours de développement, mais cette revue est un guide utile prenant en compte les données disponibles à ce jour. Nous terminons ce mois avec un éditorial de notre éditeur en chef. Il adresse les challenges et ce qui a été accompli par le journal en réponse au coronavirus, illustre les articles les plus lus parmi ceux publiés dans Anesthésiologie l'an dernier, ainsi que les changements et améliorations à venir dans notre journal. Merci pour m'avoir rejoint dans cette brève revue des travaux publiés dans Anesthésiologie. Nous serons de retour dans quelques semaines pour l'édition du mois d'août.